vous connaissez Booba, c'est Booba, c'est la piraterie quoi. Que nous ici c'est plutôt la tisane. C'est un peu l'équivalent mais en, bon, en mode chausson, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Quoi.
Pour m'inventer, il me fallait avant tout me dissocier.
My teeth, my car, my vagina, my business.
Quelle idée de l'homme avez-vous ?
Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture.
Vous voulez dire que c'est une invention ?
C'est une invention.
Eh bien, salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est Avis d'ordure qui commence. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Le punk, qui historiquement et sociologiquement est majoritairement masculin, peut-il être féministe ? Alors oui, c'est vrai que le punk porte en lui des valeurs d'anti-autoritarisme, de critique sociale, de refus des hiérarchies. Il se méfie des institutions, des normes dominantes, des assignations. A ce titre, il peut rencontrer le féminisme, mais l'intention ne suffit pas. Pour que le punk soit réellement féministe, cela suppose des pratiques concrètes. à savoir créer des espaces le plus sûrs possible, prendre au sérieux la parole des personnes victimes de violences, dénoncer le harcèlement dans les concerts, questionner les symboliques de place et de parole prises dans la scène. Bref, interroger les rapports de pouvoir et de domination là où on prétend justement les combattre. C'est un travail collectif, conscient, qui se pratique, se discute, se corrige. Et en écrivant cette intro, je me suis demandé en fait si la vraie question, la vraie tension, c'était pas plutôt savoir est-ce qu'un homme cis peut-il se dire féministe, pro-féministe. Autrement dit, peut-on appartenir au groupe social dominant et revendiquer un mouvement né de la lutte contre cette domination ? Alors c'est vrai que dans certaines scènes, cette réflexion a mené à la création d'espaces non mixtes, des espaces où des féministes radicales ont choisi de s'organiser entre elles, sans avoir à consacrer du temps, de la patience et une énergie mentale précieuse à l'éducation permanente des hommes, des lieux d'autonomie, d'expérimentation, d'évolution, voire de transformation. Alors peut-être que la question n'est pas seulement le punk peut-il être féministe, mais plutôt peut-il se défaire partiellement de ses évidences masculines pour devenir véritablement féministe ? Alors voilà, alors pour répondre à cette question, et bien d'autres encore avec moi ce soir, Maëlle, du collectif Retiens la nuit, salut à toi.
Salut Germain.
Ça va la forme ?
Oui, ça va, et
toi ? Un pétard. Gros programme, hein, t'as vu ?
Oui. Il y a de la masse. Juste une marque perdue de ma terre.
Grave. Alors voilà, donc l'idée c'était de comparer un peu nos expériences, de savoir comment le punk a peut-être structuré et défini notre rapport au féminisme, pourquoi pas. Est-ce que, en tant que personne cis, parce que tu m'as dit que oui, est-ce que cette culture punk nous a réellement éveillés, sensibilisés, questionnés au féminisme, ou alors, je sais pas, ça vient d'une sensibilité personnelle, politique, familiale. Pour toi, Maëlle, c'est quoi le féminisme ?
Je pense qu'en ce moment, vu ce qu'on traverse politiquement en France, c'est important de rappeler que le féminisme est antifasciste. En tout cas, ma vision du féminisme est antifasciste et il ne peut pas en être autrement. Il est inclusif et antifasciste. Je pense que, oui, la musique forcément fait partie de ma façon de voir les choses. C'est autant que d'écouter du punk, que de lire des textes, que d'avoir une certaine connexion avec des ressentis quand t'écoutes de la musique, etc. Des fois, tu comprends pas forcément les paroles quand t'es jeune, mais tu comprends le côté colère, le mouvement Riot. C'est ça, c'est la colère que ça dégage. Et j'ai pas forcément été féministe consciemment quand j'ai commencé à écouter du punk ou des musiques amplifiées. C'est venu un peu plus tard, mais je pense qu'aujourd'hui, par contre, dans ma façon d'écouter la musique, c'est indissociable. J'ai du mal à écouter des choses qui ne parlent pas de ça, qui ne sont pas un peu politisées, quoi.
D'ailleurs, juste, pourquoi tu as écouté du punk ? Parce que c'est vrai que dans nos trajectoires personnelles, à un moment donné, il a bien fallu qu'on ouvre cette porte et qu'on ferme pour l'instant, pas vraiment, ou pas tout à fait, quoi.
Ouais. Alors, j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui a une dizaine d'années de plus que moi et qui, quand j'étais gamine, écoutait déjà des choses bien, bien engagées. Genre
bien vénère.
Genre Dr. Feelgood, les Toy Dolls, des choses comme ça. Elle a été très longtemps en couple aussi avec Bruno Perrin, qui est un quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses pour la musique à Rennes, qui a eu une émission de radio lui aussi, qui s'appelait Punkorama, qui a ouvert un club qui s'appelait le Mondo Bizarro. Et qui organisait des concerts, et j'étais ado, et donc j'ai très vite atterri dans des concerts niche, un peu underground, etc. Et ça a forgé ça a forgé ma façon d'écouter de la musique, d'aller en concert et de vivre la musique aussi, pas juste de l'écouter.
Déjà là, toi, t'as parlé de vivre la musique et de connexion. Et c'est vrai que c'est toi qui as fait la playlist de toute l'émission. Là, on a commencé par un groupe un peu iconique, quoi, emblématique, Mondragon. Et c'est vrai que là, tu parles de connexion. Et voilà, juste avant, off, on échangeait un peu nos impressions sur divers groupes, quoi. Ton Mondragon, c'est difficilement explicable parfois. Oui. Pourquoi certains groupes créent à ce point-là une espèce de proximité, quoi.
Ouais.
Et Mondragon, je trouve, vraiment fait partie complètement de ce type de groupe, déjà, parce que je trouve les textes sont, je crois, la première personne. Enfin, on se sent très concerné rapidement, en fait, quoi. Il y a une façon aussi d'écrire et de décrire les choses qui sont soit en empathie aussi et très... ouais, c'est vraiment ce truc de proximité.
Quand on écoute de la musique et qu'on fait attention aux textes, bien souvent, on s'y trouve soi-même et c'est une façon de pouvoir revendiquer des choses qu'on ressent sans pouvoir forcément les exprimer. Les gens qui font de la musique ont cette facilité à pouvoir se... Enfin, cette facilité, pas pour tout le monde, hein, j'imagine. Et puis, ça s'apprend et ça se teste. Mais quand on fait de la zik, on monte sur scène, en règle générale. Donc, on se confronte aussi à un public. Et le public qui vient te voir quand t'es sur scène, c'est un public qui ressent quelque chose quand il t'écoute. Enfin, tout le monde ne va pas voir que des groupes qu'il connaît, etc. Mais on s'identifie. Et un groupe comme Mondragon, avec le morceau qu'on vient de diffuser là, 343 Salopes, qui est quand même du coup un parallèle au manifeste des 343 au début des années 70, qui était donc un manifeste signé par des personnes, des femmes, qui revendiquaient le droit à l'avortement, et des personnes célèbres, des personnes inconnues, et ces 343 femmes ont affirmé dans ce manifeste qu'elles avaient eu recours à l'avortement. Et ça a été relayé par les presses à l'époque, et ça a servi une cause. Et du coup, je pense que la volonté, sans les connaître, Mondragon, mais je pense que la volonté de ce texte, il est aussi de remettre en lumière que le combat n'est pas fini, qu'on a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. C'est un espace de liberté, la scène et la musique, et c'est aussi un espace de revendication. Je trouve ça dommage d'avoir cette possibilité de se servir de sa voix et de se faire entendre sans avoir rien à dire. Voilà. Et en plus, musicalement, Mondragon est quand même un groupe qui est à la porte de plusieurs, on en parlait tout à l'heure, qui est à la porte de plusieurs styles qui, moi, me parlent vachement, quoi. C'est punk, c'est crust, c'est un peu hardcore, y a de la colère, il y a du mouvement, il y a de... C'est... Enfin, tu t'écoutes ça. C'est difficile de pas avoir un élan physique. Et je pense que la colère, elle peut être physique aussi.
Ouais.
Ce qu'on interdit aux femmes aussi, vachement, hein.
Je trouve la connexion, comme tu dis, elle peut être très intellectuelle, quoi, sensorielle, mais il y a aussi une part de physique.
Y a un échange.
Ouais, ouais.
Ouais, complètement. Mais dans la musique, en règle générale, je pense pas que dans, pas que dans le punk. La musique, enfin, quand tu crées de la musique, moi j'en fais pas de la musique, j'aurais adoré, c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu, mais j'ai fait pas mal de danse et du coup j'ai côtoyé aussi beaucoup de musiciens, j'ai plein de potes, plein de copines, plein de copaines qui sont musiciens, musiciennes dans plein de styles différents, et je pense qu'il y a quelque chose de très personnel dans la création. J'imagine qu'à un moment ou un autre, chaque personne qui construit son univers musical a envie de le donner, en fait, de le partager et de savoir ce que les gens aussi en pensent et comment ça peut s'accorder et comment ils peuvent le vivre. Enfin, quand tu vas en concert, tu vois bien, les gens sur scène, en général, prennent un malin plaisir à être là.
Non, en tout cas, il y a un truc vraiment de vibration, quoi.
Ouais.
Évidemment, comme un écho qui se propage, quoi, et qu'on ressent.
Et ça peut que correspondre à des moments de vie aussi. Et voilà, mais moi j'écoute plein de trucs hyper différents. Et à partir du moment où, quand j'écoute du son, ça me fait quelque chose, ça atteint quelque chose en moi, c'est ok. Et je m'en fous de l'étiquette qu'on pose dessus, en fait, quoi. Je peux écouter du disco et trouver ça hyper cool. Je sais que tu vas me dire non.
Ouais, bon, j'allais un peu atténuer tes enflammates, quoi. Non, non, mais évidemment, je comprends bien.
On n'écoutera pas de disco ce soir, je crois.
Bon, voilà, j'ai quelques obsessions, en fait, qui me font... rester attentif à quelques détails va me permettre d'éliminer beaucoup beaucoup de trucs, quoi, tu vois. Donc d'écouter pas plein de trucs, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est mes petits trucs,
c'est ta
quoi.
Façon d'écouter la musique, c'est ta connexion à la
carrément,
musique
carrément
c'est là que c'est très personnel, du coup on s'en rend compte
évidemment, parce qu'à un moment donné dans mon parcours ça a été hyper important, c'est aussi pour ça que je fais toujours cette émission.
Mais c'est la tisanerie punk qu'on a dit.
Ce que peut ambitionner le punk. Donc tout à l'heure, toi t'as dit ta première connexion, donc c'était via des concerts par exemple, c'est pas l'attrait d'un discours particulier, c'est plus la connexion avec des groupes.
Complètement.
Et puis quand t'es jeune, tout ça c'est très nouveau, il y a quand même quelque chose d'assez fantastique.
Ouais, puis quand t'es jeune, t'es un peu égoïste aussi, donc si tu veux, les textes politiques engagés... si j'ai commencé à les vivre peut-être un petit peu plus tard en manif par exemple. Okay.
Mais pas lié au punk pour l'instant, vraiment tu dissocies l'ancrage politique
Pas tant.
Okay.
Pas tant. J'ai pas un souvenir hyper marquant de me dire ok, cette musique-là me donne envie d'agir sur tel ou tel sujet sociétal ou politique. Pas quand j'étais jeune, c'est venu quand même vachement plus tard. Quoi.
Parce que là, on parle des années fin 90, c'est ça, quand t'es à Rennes, un truc comme ça.
Ouais.
Ça,
moi,
on est là à peu près.
Née, j'ai grandi à Rennes, ouais. Et j'ai commencé à vraiment aller en concert punk en 96-97, quelque chose comme ça. À peu près. Rennes, c'est une ville fondamentalement punk et engagée et militante, et, etc. Mais je ne fais pas encore vraiment le pont entre ce que... Je ne sais pas vraiment si je me pose la question, en fait, à l'époque. Quoi. Je pense que je suis plus sur un truc festif.
Ouais, je comprends.
Sur une façon de consommer... façon de consommer la musique pour faire la fête, pour danser, pour être avec les potes, pour boire des coups, etc. Que vraiment, comme vecteur... d'idées.
Ouais, je comprends.
Voilà. À ce moment-là, je me pose pas la question, en tout cas.
Et à cette époque-là, déjà, la fête, c'est déjà, je trouve, une option politique. C'est que il y a déjà le prix libre, par exemple.
À l'époque, il y avait plein de concerts dans plein de...
Ouais, des squats, peut-être.
Ouais, des squats, des bars. Ouais. Voilà, c'est un accès à la culture qui... est malheureusement aujourd'hui plus tout à fait le même, parce que c'est légiféré dans tous les sens et que c'est plus difficile aujourd'hui d'organiser des trucs à la volée, mais il n'y avait pas un soir à Rennes dans le centre-ville où tu n'avais pas un concert dans les bars, quoi. Et souvent c'était même gratos, à partir du moment où tu rentrais dans le bar et que tu buvais des coups, tu avais un concert, quoi. Donc forcément ça ouvre la porte à pas mal de rencontres aussi, mais effectivement à l'époque je mentalise pas du tout. Je pense qu'inconsciemment, ça a dû forger des choses, mais par contre, je me pose absolument pas la question, ni politique, ni féministe, ni. Je suis pas du tout là-dedans, quoi.
Je pense que la question, c'est pas. Consiste pas uniquement à se demander si le punk peut se dire féministe. Et donc, elle oblige à regarder en face sa structuration historique et actuelle. C'est-à-dire que c'est une scène qui est quand même largement façonnée, occupée et dirigée par des hommes cisgenres, dont la présence dominante ne relève pas du hasard, mais de rapports sociaux plus larges. Cette centralité produit des normes, des manières de parler, de performer, même de penser, d'occuper l'espace, de décider. Et c'est souvent perçu comme neutre, alors que pas du tout, en fait, puisqu'elles sont situées, quoi. Et dès lors, l'enjeu n'est pas seulement idéologique. Il ne s'agit pas d'adhérer au féminisme comme une valeur compatible avec l'anti-autoritarisme, je dirais, basique du punk. Il s'agit vraiment de questionner ce que signifie concrètement pour un milieu où les hommes cis restent majoritaires, consentir à une décentralisation réelle, quoi. C'est-à-dire, une nouvelle fois, perdre du pouvoir, de redistribuer de la visibilité, de modifier les réflexes collectifs et à accepter de ne plus être la norme implicite. Là, t'es dans ces années 90.
Puis il n'y a pas de meuf sur scène. Il n'y a pas de meuf sur scène, en fait. On en parlait tout à l'heure rapidement. On va écouter un morceau tout à l'heure de Post Regiment, qui est un groupe polonais que j'ai vu en 96, mais bon, c'est un peu plus tard dans cette liste, c'est dans deux morceaux. et moi, c'est la première fois que je vois une nana... Bon, je suis jeune, hein, 96, ouais. J'ai 16 ans, et c'est la première fois que je vois une nana sur scène chanter, et chanter du punk, en fait, vraiment. Et en plus, avec... elle tient la scène, elle est, enfin, ça me met une claque monumentale. Je ne comprends absolument rien au texte puisqu'il chante en polonais. Mais il y a cette énergie, il y a ce truc, voilà. Et effectivement, à l'époque, il y a pas de meufs sur scène et les meufs, il y a pas de meufs en technique, il y a pas de meufs sur scène. À la limite, il y a des meufs derrière le comptoir, mais pas tant. Tu vois, à servir des coups.
Ouais, il y a les copines quand même des mecs qui jouent dans les groupes.
Il y a un peu ça, et en fait, j'allais y venir, on est quand même un peu cantonné à cette période-là, les meufs à être les groupies, en fait, quoi. Tu vois, on va voir les gars jouer, on va voir, voilà, on assiste à la scène, on assiste à l'évolution de la scène, mais on n'en prend pas hyper part. Ça vient, je trouve que ça vient plus tard, plutôt début des années 2000, où là, il commence à y avoir des groupes avec des meufs. Il y en a eu avant, évidemment. Il y a des groupes comme The Runaways, qu'on va écouter tout à l'heure. Voilà, j'avais envie de mettre du L7 aussi, j'avais envie de mettre plein d'autres choses, mais on peut pas tout mettre. Mais et en tout cas, localement, moi, à Rennes, à l'époque, il n'y a pas de groupe de meufs, quoi.
Là, par exemple, Post Regiment, c'est un groupe directement issu de la scène narco-punk d'Europe de l'Est, quoi.
Ouais.
Ils sont polonais-polonaises. Peut-être que ces mouvements, vachement plus construits politiquement, ont fait émerger aussi... plus rapidement, je dirais, une mixité au niveau des groupes, quoi. Dans la scène anarcho-punk, par exemple, plus tard, la scène crust, aussi, en Pologne. Je pense que la France, qui est quand même, reste sur un modèle très franchouillard, en fait. Là, j'ai parlé de la scène punk rock dans pas très longtemps. On a quand même cette base historique et idéologique qui nous a fait perdre... beaucoup d'années, quoi. On est sur un truc quand même très...
On est un peu plus à la bourre aussi que les pays de l'Est, en Allemagne, en Pologne, carrément, en Tchéquie, etc.
Évidemment.
Les meufs ont été vachement plus vite présentes sur scène,
évident,
quoi.
C'est évident.
Voilà. En Angleterre aussi, je pense.
Carrément,
un petit
bien
peu
sûr.
Plus.
La scène narco-punk anglaise, enfin crass,
exactement.
Dirt... Enfin, il y a des groupes avec des chanteuses et pas que des chanteuses, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi ce truc de la front girl, comme tu dis, qui est...
Oui, parce qu'en plus, quand il commence à y avoir des nanas dans le punk, c'est beaucoup des chanteuses. Et il y a peu de meufs à la batterie, par exemple, qu'on associe toujours à une espèce de force physique. Voilà, il y a peu de meufs à la guitare. Il y a une accessibilité aux instruments, je pense, qui est encore pas hyper ouverte. Qui vient un petit peu plus tard, mais on commence à voir des meufs au chant, ouais, effectivement.
Et c'est pour ça que tu as choisi HHM, c'est un groupe de Bretagne,
ouais,
ça.
HHM, c'est un groupe de Bretagne, ouais. Et HHM, c'est l'acronyme de Happy Home Makers.
Ok, je savais pas.
Donc c'est un peu les Desperate Housewives du punk.
Bon. Excellent.
Et donc c'est un trio.
Ouais.
Moi, je connais surtout Juliette, qui était donc guitariste-chanteuse. HHM n'officie plus aujourd'hui, mais elles ont un projet, un side project qui s'appelle Simone de Foutoir.
Pas mal.
Et j'adore le nom.
Ouais, très bien.
Ouais, c'est très très chouette. Et du coup, c'est plus un projet autour de la diffusion de musique. Et, voilà, elles se déplacent avec leurs petits disques et c'est un peu disque jockey, on va dire, et animation.
Ah, d'accord, ok.
Mais punk.
Ok.
Voilà.
Ouais, cool. Ouais. She walked down the streets with new short dress. She couldn't make a step without her post on the ground. The bus driver, the desk man. I know you've been through some shit, so what's the thing is anymore? Tu sais que t'as beaucoup de choses à avoir vu quand même post-régime, surtout dans ces années-là, quoi.
Oui, oui.
Respect
oui.
À toi, quoi.
Ouais. Bah pétard. Écoute, ça s'est fait comme ça, mais je t'avoue qu'à l'époque, je ne savais absolument pas que j'allais voir un groupe qui a carrément marqué
ouais, mais à mort,
la narco-punk polonais.
Carrément, ouais. Je suis fini, mais tu n'es pas à mes.
Je t'ai chiffré.